êtes bien sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Olivier et Benjamin Roger. Bonjour à vous. Mathieu Olivier, vous êtes journaliste pour le média Jeune Afrique, rédacteur en chef adjoint en charge des investigations et spécialiste de l'Afrique centrale. Vous êtes accompagné de Benjamin Roger, journaliste au Monde, chef adjoint au Monde Afrique, ancien rédacteur en chef adjoint au Jeune Afrique pour qui vous avez été correspondant à Dakar, et vous êtes spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Vous êtes tous les deux présents au mémorial de Caen pour présenter une conférence qui a pour intitulé « De Wagner à Africa Corps, la nouvelle influence russe en Afrique ». Juste après, vous avez eu une séance de dédicace pour votre BD « Wagner, l'histoire secrète des mercenaires de Poutine », co-créée avec Thierry Chavant. Mais on va y revenir après. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe paramilitaire russe qu'est Wagner ?
Alors Wagner, pour essayer de faire synthétique, Wagner c'est d'abord une assemblée d'anciens combattants russes, je dirais. Donc la plupart étaient issus au départ des forces spéciales de l'armée russe. Ils se regroupent, on va dire, aux alentours de 2014. Ils vont d'abord être actifs dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Ils vont se regrouper autour d'un homme qui va devenir un de leurs chefs, qui va devenir le chef militaire de Wagner d'ailleurs. Il s'appelle Dmitri Youtkin, qui va d'ailleurs donner son nom au groupe, puisque Wagner c'était son surnom. Dmitri Youtkin, c'est vraiment l'archétype de ces combattants-là, c'est-à-dire que c'est un ancien des forces spéciales, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a des tendances néo-nazies et qui va épouser les ambitions souverainistes de Vladimir Poutine. Donc on est à cette époque-là, au milieu des années 2010, où Vladimir Poutine va vraiment commencer à avoir un discours anti-occidental, impérialiste, voilà, vraiment anti-occidental, qui va mener, donc maintenant on le voit très bien en Ukraine, mais donc qui va séduire tout un tas d'anciens combattants qui ont les capacités de combat, etc., et qui vont les remettre au service de ce qu'ils appelleront la grande Russie, dans ce qui deviendra le groupe Wagner en Afrique à partir de 2016. Donc on va les voir d'abord au Soudan, puis en Centrafrique, puis au Mali. Mais donc voilà, on est sur la création d'un groupe qui date d'à peu près une dizaine d'années, quoi.
Donc on parle beaucoup d'une influence russe grandissante sur le territoire africain, notamment par le biais donc de Wagner. Est-ce que vous pouvez décrire dans les grands traits cette nouvelle influence russe ?
Oui, alors l'influence russe sur le continent, il y a à nouveau une offensive russe sur le continent. L'URSS était un partenaire historique, stratégique de beaucoup de pays africains à partir des indépendances de 1960 jusqu'à en gros la chute de l'URSS en 1990. Et après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine à partir des milieu des années 2010, à partir de 2015, il y a à nouveau la volonté de Vladimir Poutine de regagner du terrain en Afrique et de pousser un peu ses pions sur le continent. Et donc il va pour ça s'appuyer notamment sur un instrument à l'époque secret qui est à mi-chemin entre le privé et le public, qui est le groupe Wagner, et qui donc fait de l'influence à la fois économique, parce que ça permet de tirer des profits, parce que le groupe sécurise des mines d'or et exploite des mines d'or ou d'autres sources de matières premières, sécurise des régimes, donc aussi une influence militaire, parce qu'il sécurise des régimes et permet de vendre un peu aux partenaires africains la solution militaire russe, et aussi de l'influence en termes de propagande et de communication, c'est-à-dire qu'il y a tout un... Le groupe Wagner, c'est pas seulement des mercenaires, il y a aussi tout un réseau de propagande derrière qui permet de nourrir un discours, d'entretenir un discours favorable à la Russie et défavorable à ses rivaux, à ses ennemis, et notamment la France.
Alors pourquoi c'est aussi important de vouloir s'implanter en Afrique pour la Russie ?
L'implantation russe en Afrique, elle est historique dans un sens, puisque Benjamin l'a dit, il y a une forme de continuité avec ce que voulait faire l'URSS, c'est-à-dire que l'URSS a accompagné les indépendances africaines dans les années 60. Il y a une idée quand même du nouveau pouvoir russe d'accompagner la finalisation des indépendances africaines que la Russie estime incomplète. C'est-à-dire que notamment pour ce qui est des colonies françaises, des anciennes colonies françaises, il y a... des indépendances en 1960, mais des indépendances imparfaites. La Russie a fait le pari assez vite y allait avoir un deuxième mouvement d'indépendance et que, comme l'URSS l'avait fait en 1960, il fallait qu'elle l'accompagne au XXIe siècle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un intérêt très opportuniste, encore une fois, de lutte de Vladimir Poutine contre l'Occident, de redevenir une grande puissance. Pour redevenir une grande puissance, il faut l'être contre quelqu'un. En l'occurrence, c'est contre les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Et il a vu l'Afrique assez vite comme un second front. Ce sera encore plus vrai à partir du moment du déclenchement de la guerre en Ukraine en début 2022, où il va essayer d'aller s'attaquer aux intérêts de ce qu'il considère comme des belligérants en face de lui en Ukraine, que sont les pays de l'OTAN, et donc en l'occurrence la France. Donc il va aller chercher des pays en Afrique où les intérêts français sont importants, et il va essayer d'aller grignoter. Et il y a une combinaison de ces deux choses que je viens d'expliquer, c'est qu'il y a un terreau qu'on peut résumer comme étant un sentiment anti-français, qui est un terreau en fait décolonial, sur lequel Vladimir Poutine va s'appuyer pour pousser sa visée impérialiste et anti-occidentale. Donc l'intérêt, il est là. Après, comme pour toutes les puissances, il y a aussi des intérêts financiers, c'est-à-dire qu'il y a toute une constellation d'entreprises russes, d'entreprises étatiques, que ce soit dans le nucléaire, dans les mines, etc., qui, si la Russie avance ses pions à un endroit, les entreprises suivent. Donc là, il y a quelque chose d'assez classique, je dirais, capitaliste, d'être en compétition. Mais bon, on pourrait résumer tout ça en étant très synthétique, c'est qu'il y a une volonté de redevenir une grande puissance, de redevenir un empire face aux autres. Et l'Afrique est un terrain de jeu qu'il fallait investir.
Donc en août 2023, son leader, donc à Wagner, Evgeny Prigojine, est mort dans un crash d'avion suite à sa rébellion ratée envers le gouvernement russe. Les autorités russes reprennent alors en main son empire. Bâti en grande partie en Afrique, il le transforme en un dispositif civilo-militaire dédié au continent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces termes « dispositif civilo-militaire » ?
Ça, c'est surtout un terme utilisé par les gens, les journalistes, les chercheurs, les diplomates, enfin tous les gens qui s'intéressent au sujet, pour essayer de définir le nouveau système, en fait. La vérité, c'est que c'est un nouveau système mis en place par le Kremlin pour gérer ses intérêts en Afrique, et notamment ses intérêts, du coup, militaires. Et donc voilà, c'est un nouveau dispositif. En fait, la vérité, c'est que l'idée, c'est de reprendre en main ce qu'était le groupe Wagner à partir de la mort de Prigojine, de sa rébellion puis de sa mort. Donc de reprendre en main le système mis en place par Wagner au Soudan, en Centrafrique, en Libye et au Mali. Et donc, c'est juste une espèce d'étatisation, d'officialisation du système qui était déjà là. Et désormais, là où le groupe Wagner était secret et pas assumé, là c'est une coopération qui est officielle, pleinement assumée par le Kremlin, avec une coopération d'État à État, comme en fait le font tous les autres pays du monde. Et c'est juste qu'en fait on officialise la relation, et donc il faut trouver un nouveau terme, un nouveau système, et est né ce terme d'Africa Corps, qui est en fait l'espèce de nouvelle coquille mise en place par le ministère de la Défense russe pour englober tout le dispositif militaro-économico-propagando-économique de la Russie sur le continent.
Le civilo-militaire, en fait, c'est assez simple, c'est la doctrine russe de la guerre, quoi. C'est-à-dire que ils ont une doctrine qui date pas de Vladimir Poutine, qui date de l'URSS, qui est de considérer qu'on fait la guerre à la fois sur le théâtre économique, sur le théâtre de l'information et sur le théâtre militaire. Donc pour eux, en fait, je sais pas si le civilo-militaire aurait une traduction en russe, ça n'aurait aucun intérêt. Eux, ils réfléchissent comme ça, c'est leur doctrine. C'est en France, on appelle ça le livre blanc de la défense. Eux, dans leur livre blanc de leur stratégie, il y a ce côté, en fait, à 360 degrés, où il y a du civil, c'est-à-dire de la propagande, de l'économie, etc., et du militaire. Donc le civilo-militaire de l'Africa Corps, c'est juste une traduction de la stratégie russe, quoi.
Donc est-ce que le nom justement d'Africa Corps, qui est explicitement lié au Deutsche Afrika Korps de l'Allemagne nazie, est-ce que vous pensez que c'est voulu, ce terme ?
Alors, on ne sait pas, on n'a pas la réponse, parce qu'on n'était pas avec les concepteurs quand ça a été imaginé, conçu. au Kremlin ou ailleurs à Moscou. Il y a évidemment le terme Afrika Korps historique qui renvoie, comme vous l'avez dit, au bataillon nazi au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi ce que pensent beaucoup, et en partie nous, c'est-à-dire que Afrika Korps, c'est une traduction, et c'est une traduction du russe qui est Afrikanski Korpus, et qui, si on traduit du russe, veut dire en fait corps africain. Voilà. Après, est-ce que c'est volontairement de leur part à eux ambivalent parce qu'ils savent que si c'est traduit en Afrika Korps, voilà, je ne sais pas, mais il y a une traduction littérale. Et si on traduit littéralement du russe à Afrikanski Korpus, ça veut dire corps africain.
Je ne suis pas sûr que... là, encore une fois, on n'était pas chez eux quand ils ont créé le nom, mais ils créent Afrika Korps au moment où ils sont engagés en Ukraine et au moment où ils ont eux-mêmes une propagande où ils considèrent qu'ils se battent contre Zelensky, qui serait un nazi ukrainien. Donc j'ai un doute sur le côté... d'un côté, on va dire qu'on est les sauveurs de l'Europe contre les nazis, et de l'autre côté, on va créer un bataillon qui rappellerait les nazis en Afrique. Donc c'est là aussi où moi je penche plutôt pour la coïncidence de traduction, pour le coup.
Donc il y a dans cette implantation russe une vive opposition à l'Occident. Comment ça se traduit dans les grands traits sur le territoire africain ?
Dans les pays africains où ils sont déployés, donc dans les pays africains francophones, parce que toute l'Afrique n'est pas francophone, donc dans ces pays-là, Wagner et les Russes ont largement joué sur, de manière fort habile de leur point de vue, un espèce de rejet de l'État français et de la politique menée par la France depuis des décennies dans leur pays. Il faut jamais oublier que ces pays, pour ces pays, la France, c'est d'abord et avant tout l'ancienne puissance coloniale, donc qui a colonisé ces pays, et qui, malgré les indépendances en 1960, à travers les réseaux obscurs, affairistes et de la France-Afrique, a continué à essayer d'exercer une forme d'influence et de contrôle sur leur gouvernement. Et donc, voilà, il y a tout ce contexte-là qui existe dans ces pays. Et les stratèges russes de Wagner ont fort bien compris ça et l'ont utilisé à bon escient, en soufflant en fait sur des braises qui étaient déjà là.
Il y a aussi une question de valeur, c'est-à-dire que on a d'un côté ce qui est considéré comme les valeurs occidentales et de l'autre côté des valeurs qui sont portées à la fois par des sociétés africaines mais aussi par Vladimir Poutine. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, au milieu des années 2010, quand on dit qu'il y a un virage anti-occidental, c'est aussi qu'il commence lui-même à avoir un discours sur les valeurs occidentales qu'il veut rejeter. Donc on parle notamment de l'homosexualité. Et ça, c'est des discours qui sont très porteurs en Afrique, où beaucoup de populations considèrent que les Français, mais aussi les Américains, donc globalement les Occidentaux, apportent des valeurs qui ne seraient pas des valeurs ancestrales africaines. Or, c'est exactement ce ressort-là qu'a utilisé Vladimir Poutine pour parler à un moment au peuple russe au milieu des années 2010. Donc il y a une caisse de résonance qui est assez évidente là-dessus et qui fonctionne plutôt pas mal. On en parle assez peu, mais c'est aussi un des ressorts de la propagande russe aujourd'hui anti-occidentale en Afrique.
Que Benjamin Roger, vous avez étudié au Mali. Vous avez été expulsé sans motif très apparent, j'ai cru voir. Est-ce que vous pouvez confirmer mes propos ?
Si, il y avait un motif officiel, c'était que j'avais pas d'accréditation pour travailler en tant que journaliste. En l'occurrence, tous les journalistes qui étaient là-bas jusqu'à présent travaillaient comme ça. Enfin, ils savaient, à partir du moment où le visa était accordé, ils savaient que les journalistes venaient travailler, il n'y avait pas besoin d'attestation. Donc ça, c'est le motif officiel. Le motif officieux, c'est juste que faut se replacer dans le contexte de l'époque. Donc moi, j'y allais notamment pour travailler sur l'arrivée du groupe Wagner dans le pays. Les premiers mercenaires venaient d'arriver au Mali. Donc moi, mon journal Jeune Afrique, à l'époque, décide de m'envoyer pour qu'on fasse une enquête sur le sujet. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, les relations entre les autorités putschistes maliennes et la France sont déjà exécrables. Je pense que c'est tombé sur moi, mais ça aurait pu être n'importe quel autre journaliste français. L'idée, c'était de commencer à montrer que les Français n'étaient plus les bienvenus et que les journalistes français qui viennent travailler sur des sujets qui n'ont pas vocation à être dévoilés de leur point de vue, voilà, étaient pas les bienvenus, quoi. Donc, j'ai été arrêté, j'ai pas été violenté ou quoi que ce soit. Juste, on m'a arrêté, on m'a expulsé du pays. Mais le message était assez clair. En fait, le message donné derrière à tous les médias français et plus largement occidentaux qui viennent travailler au Mali, c'était en gros, voilà, aujourd'hui, vous pouvez plus travailler sur ce que vous voulez et passer votre chemin.
Donc c'est en lien avec ce qu'on a dit juste avant, justement sur peut-être la décolonisation française, j'ai envie de dire, du pays du Mali.
Je sais pas si c'est en lien, en tout cas ça a contribué, comme c'est un petit caillou en plus sur voilà, c'est on s'attaque à la liberté de la presse, on rejette la presse française, ça intervient dans un contexte plus global de rejet de la France.
Donc on va maintenant se pencher un petit peu sur la BD avant de terminer l'interview. Donc vous avez publié une BD sur le sujet, donc Wagner. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit synopsis ?
Non, cette bande dessinée, en gros, c'est la somme des enquêtes qu'on a effectuées à l'époque pour Jeune Afrique. Donc ça raconte, comme son sous-titre l'indique, l'histoire secrète des mercenaires de Poutine en Afrique. Donc ce qu'on connaît peu de Wagner, le grand public a connu beaucoup Wagner par rapport à la guerre en Ukraine. Ce qu'on sait peu, c'est que la puissance de Wagner, elle est venue de l'Afrique, et donc ils se sont implantés d'abord au Soudan, qu'ensuite ils ont un peu phagocyté la Centrafrique, où ils ont implanté des entreprises, etc., puis qu'ils ont répliqué ça au Mali, puis qu'ils ont continué dans des pays voisins. Donc cette bande dessinée, elle raconte la nébuleuse Wagner, c'est-à-dire à la fois des mercenaires, des entrepreneurs, puisqu'il y a des entreprises qui exploitent l'or, qui exploitent le bois, qui exploitent les diamants, etc. Donc il y a, pour donner un seul chiffre, on estime qu'il y a à peu près un revenu de 2,5 milliards de dollars, rien qu'en ce qui concerne l'exploitation de l'or entre début 2022 et fin 2023. Donc c'est des sommes qui sont assez colossales, qui ont fini par revenir en Russie. Donc, qui ont permis aussi l'effort de guerre russe en Ukraine. Voilà, donc ça raconte ça, et puis ça raconte l'histoire de deux hommes, qui sont Dimitri Youtkine, dont on a parlé tout à l'heure, et puis Evgeny Prigojine, qui a une histoire assez extraordinaire, puisque on parle d'un restaurateur qui est devenu chef de guerre, et qui tentera un putsch sur Moscou, et qui le paiera de sa vie. Donc on a des personnages assez, assez hauts en couleur.
Donc, dernière question, pourquoi avoir choisi la forme de la BD ? Justement pour présenter cette thématique.
Première raison très simple, c'est que tous les deux, on aime beaucoup ce genre-là, le roman graphique. On est tous les deux des lecteurs assidus, et parce qu'on trouvait que voilà, c'était un format qui permettait de toucher peut-être un plus large public que celui qu'on touchait avec nos publications, nos enquêtes dans Jeune Afrique, qui s'adressent voilà, à des lecteurs déjà avisé sur le sujet ou avisé sur les questions africaines. Et puis, troisième point et dernier, c'est que ça permet aussi la BD de mettre en forme, de mettre en récit toute une histoire qui était assez dense, assez compliquée, avec des images sur des scènes là où il n'y en avait pas forcément, pour des raisons évidentes. Et donc, du coup, le fait de mettre tout ça en images, en scénario, ça permettait voilà, d'apporter un niveau de narration un peu différent, un peu supérieur. Et c'est ce qu'a très bien réalisé notre dessinateur et scénariste Thierry Chavant, qui a très bien compris l'histoire et qui a tout de suite réussi à mettre tout ça en musique, ou plutôt en images.
Je remercie Benjamin Roger et Mathieu Olivier pour m'avoir réservé un temps d'échange à la fin de leur conférence. Nous allons, nous, marquer une pause musicale dans cette émission pour écouter Live Your Love de Parcels.
so alive when she looks at me, talks to me, it just opens me. Then we go away, feel the pain coming on strong, on and on, but I can't complain. On my way back to her place, I never wanna leave you, love.
C'était Live Your Love de Parcels sur Radio Phoenix. Comme annoncé dans l'intro de cette émission, je reçois aujourd'hui Laurie de Bain Violette. Salut Laurie.
Salut Bastien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de personnes, et en particulier les femmes et les minorités, la cyberviolence et le harcèlement en ligne. Ces violences, parfois invisibles, ont des conséquences très réelles et bien souvent trop graves.
Le cyberharcèlement, c'est un phénomène en plein essor dont on entend de plus en plus parler.
Exactement, avec l'essor des réseaux sociaux, les violences sexistes et sexuelles ont trouvé un nouveau terrain. Insultes, menaces de viol, diffusion non consentie de photos intimes, campagnes de dénigrement, les outils numériques sont devenus des armes entre les mains de ceux qui veulent dominer ou réduire au silence. Selon une enquête de l'ONU Femmes publiée en 2023, plus de 85% des femmes en ligne ont déjà été confrontées à des formes de harcèlement numérique, et ce chiffre grimpe à 97% chez les femmes politiques ou journalistes. En France, une étude récente montre que 7 femmes sur 10 âgées de 18 à 29 ans ont subi des violences en ligne. Cela va des commentaires sexistes au cyberharcèlement massif. En complément des formes de violences en ligne mentionnées, il est essentiel de souligner une facette souvent méconnue mais dévastatrice, les cyberviolences au sein du couple. Ces violences, parfois subtiles, exploitent les outils numériques pour renforcer des dynamiques de contrôle et d'oppression déjà existantes. L'agresseur peut utiliser la technologie pour surveiller, humilier ou manipuler sa partenaire. Cela passe par le cybercontrôle, suivi de déplacements via GPS, exigence d'accès aux réseaux sociaux, le cyberharcèlement, inondation d'appels ou de messages insultants, ou encore la cybersurveillance, souvent facilitée par des logiciels espions. Les conséquences de ces violences numériques ne sont pas seulement psychologiques, elles ont des impacts directs sur l'autonomie des victimes, leur sécurité et même leur rôle parental.
Un exemple frappant de cyberviolence qui a des conséquences dramatiques, c'est le revenge porn, qui est le fait de rendre public sans le consentement de la victime des images ou propos à caractère érotique échangés dans un cadre privé.
Oui, on a notamment eu des cas dans la région, comme Juliette, 15 ans, qui s'est suicidée le 3 mars 2016, en se jetant sous un train près de Lisieux. Selon ses parents, des photos intimes prises par son petit ami circulaient sur les réseaux sociaux et dans son lycée. La diffusion de ces messages ont conduit à un harcèlement massif jusqu'à ce qu'elle mette fin à ses jours. Ce phénomène est souvent minimisé, pourtant il peut détruire des vies. Les victimes doivent parfois changer d'identité numérique, déménager, voire se retirer complètement des réseaux sociaux pour se protéger. Les victimes sont très souvent des jeunes filles au collège et au lycée, et l'impact sur leur vie sociale et sur leur future vie sexuelle est désastreux. Et comme dans le cas de Juliette, cela peut aller jusqu'au suicide. Un autre exemple encore plus commun de violence sur Internet sont les dick pics, des photos de pénis envoyées sans le consentement de la personne qui la reçoit. On est très nombreuses à en recevoir de manière très fréquente, et j'en ai moi-même fait l'expérience lorsque j'ai passé mon profil Instagram en public. Enfin, toutes les femmes qui sont exposées sur Internet, type youtubeuses, streameuses, etc., vivent des formes plus ou moins violentes de cyberviolence. Léna Situation, une youtubeuse, a été victime à plusieurs reprises de vagues de messages haineux sur différents réseaux sociaux, suite à sa tenue, à un événement, à une prise de poids ou à une nouvelle coupe. Bref, les femmes visibles sur Internet sont constamment jugées sur leur physique, contrairement à leurs collègues masculins. Très récemment, la copine de Michou, un youtubeur, s'est pris une énorme vague de haine pour un comportement anodin. Lors d'un live, elle a répondu rien quand son copain lui a demandé ce qu'elle faisait sur son téléphone. Internet s'est enflammé en disant qu'elle l'a trompé forcément. S'en est suivi un millier de messages à base de « grosse pute »,« salope », etc. Ce comportement décourage fortement les femmes à s'exposer sur Internet, explique en partie pourquoi elles sont si peu nombreuses comparées aux hommes.
Et pourquoi il y a un tel déferlement de haine ?
Comme pour les violences dans la vie réelle, le cyberharcèlement est un problème systémique enraciné dans le sexisme et les rapports de domination. Les plateformes en ligne, avec leurs algorithmes, favorisent souvent les contenus polémiques ou haineux car ils génèrent plus d'engagement. Et tant que les auteurs de ces actes restent anonymes et impunis, ils se sentent libres d'agir sans crainte et sans conséquence.
Laurie, c'est quoi les impacts sur les victimes ?
Comme je le disais, pour le cas des victimes de revenge porn, les conséquences du harcèlement en ligne vont bien au-delà de l'écran. Beaucoup de victimes développent des troubles anxieux, des dépressions ou des syndromes de stress post-traumatique. Certaines perdent leur emploi ou arrêtent leur étude parce que leur vie numérique a contaminé leur vie réelle. Et puis il y a les silences, de nombreuses victimes se sentent coupables ou craignent de ne pas être crues si elles dénoncent. Des violences qui s'inscrivent dans un continuum et se poursuivent hors ligne. L'espace numérique est en effet pas disjoint du monde tangible, les menaces faites en ligne n'en restent pas qu'au stade de menaces et sont mises à exécution. Ainsi, 72% des victimes déclarent que les cyberviolences se sont poursuivies en dehors des réseaux sociaux. Elles sont même près d'un sur cinq à rapporter un vécu de violence physique ou sexuelle accompagnant les violences en ligne. Les victimes de cyberviolences encourent donc de grands dangers, il ne suffit pas d'éteindre son ordinateur ou de désactiver ses comptes sur les réseaux sociaux pour faire cesser ces violences.
Alors justement, comment lutter contre ces violences, Laurie ?
Alors tout d'abord, les plateformes ont une responsabilité qui est énorme. Elles doivent améliorer leurs outils de signalement et de modération et investir dans des solutions pour détecter et sanctionner les comportements qui sont abusifs. En France, la loi contre le cyberharcèlement progresse, notamment avec la reconnaissance des raids numériques comme une forme de harcèlement groupé, mais il reste encore beaucoup à faire. Et pour celles et ceux qui se sentent victimes, des ressources existent. Il y a notamment l'association Stop Ficha qui lutte contre la diffusion non consentie d'images intimes. Et bien sûr, si vous êtes en danger immédiat, n'hésitez pas à contacter les forces de l'ordre. Si vous pouvez, vous pouvez aussi saisir gratuitement et en ligne la CNIL, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, pour contester la diffusion de votre image en tant que données à caractère personnel par un site internet après avoir demandé sans succès l'arrêt de cette diffusion aux responsables du site. La CNIL peut prononcer des sanctions, comme des avertissements, des sanctions pécuniaires, des injonctions, etc. Mais cela prend malheureusement souvent du temps.
Mais alors, quelles sont les solutions contre les violences faites aux femmes sur Internet ?
La réponse, elle est avant tout politique. La lutte contre la violence et le harcèlement à l'égard des femmes via Internet doit être une véritable priorité pour les gouvernements. Pour que cela soit possible, il est important de mettre en place des observatoires capables de fournir des chiffres fiables. Les termes employés pour parler de ces violences ont également un rôle important à jouer. Ainsi, il est nécessaire de s'accorder sur une définition commune pour pouvoir rendre public, politique ce phénomène. On souffre aussi d'un manque de définition officielle des violences en ligne, ce qui rend les études difficilement comparables entre elles et entretient le flou quant à la portée exacte du phénomène. Je veux rappeler aussi une chose, la violence numérique n'est qu'un reflet des violences dans notre société. Si nous voulons des espaces en ligne plus sûrs, il faut continuer à éduquer, à dénoncer et à responsabiliser. Enfin, une grande partie des personnes qui ont des propos ou des comportements violents en ligne sont de jeunes personnes influencées. Si vous avez des enfants, je vous conseille d'ouvrir la conversation sur ce sujet afin de s'assurer que votre enfant a conscience de l'impact que peut avoir son comportement en ligne.
Laurie, tu avais une recommandation de documentaire pour nous, pour nos auditeurs.
Oui, concernées elles-mêmes par ce fléau, les journalistes belges Myriam Leroy et Florence Hainaut sont allées à la rencontre de ces femmes confrontées à la haine en ligne pour créer un documentaire intitulé #salepute qui met en lumière les violences que subissent les femmes via les réseaux sociaux et je vous recommande d'aller le voir.
Merci à toi Laurie pour ta chronique. On retrouve Main Violette très sûrement le mois prochain pour une nouvelle chronique. L'Open de Caen a lieu du 8 au 11 décembre. C'est le grand événement sportif de cette année, de cette fin d'année d'ici à Caen. Radio Phoenix et son émission Tennis Pleine Balle ont souhaité donner la parole et mettre en lumière le travail des bénévoles qui œuvrent pour que ce grand événement puisse avoir lieu chaque année. Aujourd'hui, on va retrouver Enzo et Nathalie Trancard, juges arbitres.
Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
Le progrès technique va vite, mais la radio, ça ne permet pas encore de voir la tête des gens qu'on interroge. Donc, nous sommes avec Nathalie Trancard. À la radio, on ne voit pas la tête des gens, mais je suis sûr que nos auditeurs, ou une partie, l'ont forcément vu s'ils ont participé au calife de l'Open de Caen. Qui êtes-vous, Nathalie Trancard?
Alors, je suis la juge arbitre du tournoi. En fait, que ce soit de la phase finale du mois de décembre et des qualifs du mois de novembre, surtout, qui me prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie.
Et ben oui, parce que c'était plus de 800 joueurs, il me semble.
700 joueurs, ouais. Ouais.
Ce qui est quand même intéressant, on va pas se mentir.
C'est très, très important. Parce que faut passer les 700 joueurs sur 15 jours et surtout je bosse sur 24 tableaux différents.
Oui, voilà.
C'est surtout ça qui est.
C'est une charge de taf quand même assez conséquente, on ne va pas se mentir.
On peut le dire.
Pour ce qui est plus de l'Open de Caen, du coup, votre rôle est un peu différent.
Oui.
Même si c'est l'Open de Caen, on pourrait penser que c'est là que vous bossez plus, mais pas forcément au vu du nombre de joueurs présents en tout cas. Qu'est-ce que vous faites réellement à l'Open? Quel est votre contact avec le joueur?
Alors, moi, mon rôle sur la phase finale, c'est essentiellement de chouchouter les joueurs, on va dire, parce que ce n'est pas le tableau et le nombre de matchs qui me prennent le plus de temps. Donc, moi, mon rôle, c'est de m'occuper des joueurs, en fait, essentiellement, m'occuper de tout ce dont ils ont besoin, de leurs entraînements sur les terrains, des diverses choses... dont ils ont besoin, des fois ils ont besoin d'aller un petit peu en salle de sport pour le physique, avant leurs entraînements. Voilà, toutes les petites choses diverses et variées dont ils ont besoin.
Aux petits oignons, finalement.
Aux petits oignons, voilà.
Vous les chouchoutez comme il se doit.
J'essaye.
Je suis sûr qu'ils sont ravis. donc concrètement, pendant l'Open, finalement, votre journée type, s'il y a une journée type, qu'est-ce que ça pourrait être?
Alors, il n'y a pas vraiment de journée type parce que toutes les journées sont assez différentes. C'est essentiellement, je vous dis, de m'occuper des joueurs. Alors, surtout leurs allées et venues, il faut les emmener, les ramener, et voilà. Et puis aussi, tout ce qui va sur l'Open aussi, où je suis également directrice administrative. Donc, je gère avec Arnaud, tout ce dont Arnaud a besoin, parce qu'il est assez débordé par ce qu'il a à faire aussi. Donc, dès que je peux lui filer un coup de main pour quelque chose, voilà. Donc, il y a plein de petites choses, en fait, qui nous prennent du temps à la journée où on n'arrête pas, quoi. Mais voilà, c'est une succession de petites choses. Et puis, c'est gérer tous les petits problèmes qui s'amènent au fur et à mesure qu'on avance, quoi. Voilà.
Et est-ce que le fait que ce soit un tournoi exhibition, est-ce que le contact avec les joueurs est un peu différent peut-être? Peut-être qu'il est plus, on va dire, plus amical entre guillemets, vu que c'est un tournoi en dehors des codes du circuit.
Alors, c'est certain que c'est différent, parce que c'est vrai que sur des grands circuits comme ça, il y a un code du juge-arbitre par rapport aux joueurs et tout ça. Moi, c'est quelque chose, je ne devrais pas le dire, mais que je ne peux pas faire. Pour moi, le sport, ça reste du sport. Avant tout, c'est le contact. Ça ne m'empêche pas de prendre une décision comme il se doit, si besoin est, sur le terrain ou en dehors. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse lier des liens avec les gens. Moi, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à me référer au code de la fédération.
Ça peut totalement se comprendre.
Ouais, c'est compliqué.
Une dernière petite question, une anecdote, un souvenir à partager à nos auditeurs.
Alors, une anecdote Pas vraiment. La seule chose que je pourrais dire, voilà, qui est quelque chose de super, super agréable et super sympa, c'est le lien qu'on crée avec les joueurs. C'est vrai que il y a beaucoup de joueurs avec lesquels on crée des liens parce qu'on passe quand même 3-4 jours ensemble, qui sont, c'est des êtres humains comme tout le monde. Donc voilà, on partage des choses et c'est la chose qui est super agréable sur ce tournoi.
Nathalie Trincard, une des nombreuses petites mains qui font le succès de l'Open de Caen. Merci Nathalie.
Merci à Enzo et Nathalie Trancard. L'Open de Caen, c'est du 8 au 11 décembre au Palais des Sports. On arrive au terme de cette émission. Je souhaite remercier tous les intervenants, également Émile qui est à la régie et au montage. Mais avant tout, merci à vous, nos auditeurs, de nous avoir suivis aujourd'hui, et auditrices, bien sûr. La Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. En attendant, vous retrouverez Anaël ce soir pour La Belle Antenne, votre émission d'actualité culturelle sur la 92.7. Je vous souhaite une excellente journée.